La Cabane, la brasserie Les Deux Frères et Choc.ca sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini-festival hivernal Série Neige. Les 8, 15 et 22 février, viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du Divan Orange. Découvre aussi des groupes comme B-Box, Étienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de Série Neige.
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Vous en avez assez de faire des photos moches? Écoutez Objectif Numérique où on vous donne des conseils, on teste des produits, on vous tient au courant des dernières nouvelles en matière de photographie et on vous suggère des sites ou des photographes à suivre. Tous les samedis, 13h.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de Choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de Choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Aujourd'hui, comprendre son secteur et comment on peut faire une analyse sectorielle pour tout le monde. On va parler d'une note sectorielle. À quoi ça sert? Comment on peut faire ça? Qu'est-ce que ça va nous donner? Quels sont les avantages, en fin de compte, que ça pourrait peut-être procurer? On prend un exemple qu'on part, on s'en va en camping. Est-ce qu'on veut juste se lancer en camping sans connaître quelques règles, quelques outils, quelques conditions? Alors, probablement qu'on va vouloir s'informer auprès de gens qui l'ont déjà fait, de gens qui sont des adeptes, peut-être des gens qui l'ont juste exploré une ou deux fois pour avoir quelques idées. Donc, on va aller ramasser d'informations entourant les conditions où on s'en va, les outils qu'on a probablement besoin, quelles sont les opportunités. On va essayer de trouver, est-ce qu'il y a des règles? Et si on ne trouve pas quelles sont les règles, ben il y a peut-être quelqu'un qui va nous ramener à l'ordre, puis ça va juste nous mettre dans un embarras. Donc, on est probablement mieux de savoir un petit peu l'avance. C'est la même chose de dire, on s'en va jouer au golf, et puis on connaît pas les règlements, on connaît pas les différentes conditions. Est-ce qu'on peut aller là-bas en gougoune, ou bien on peut y aller en espadrille, où ça nous prend des souliers spéciaux? Est-ce qu'il y a un décorum? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Est-ce qu'on peut aller se promener n'importe où avec la voiturette? Ou bien est-ce qu'on peut frapper notre balle dans toutes les conditions sur toutes les parties du terrain de golf? Est-ce qu'on peut jouer seul? Est-ce qu'on doit jouer en équipe? Est-ce qu'on peut... Il y en a un paquet de règles qu'on doit connaître. Et si on veut être efficace dans un ou l'autre de ces exemples, ben, on a un petit peu de devoir à faire avant. A fortiori, lorsqu'on parle de lancer notre entreprise, là, on va investir du temps. On va peut-être investir de l'argent aussi. On va attirer des candidats, des candidates qui vont vouloir peut-être travailler avec nous. On doit être séduisant. Il faut connaître notre domaine. Et c'est pour ça qu'on parle de faire une analyse sectorielle dans plusieurs de nos ateliers lorsqu'on accompagne les entrepreneurs. Les questions de base qu'on va poser, ben est-ce que c'est un domaine que tu connais? Qu'est-ce que tu connais de ce domaine? Quelles sont les opportunités? Donc, dans cette capsule, on va regarder les grandes étapes qui nous amènent à avoir un document en main. Et ce document, qu'il soit écrit de façon très, très professionnelle ou pas, au moins ça nous donne un recueil de toute l'information pertinente. Donc, trois grands temps pour pouvoir créer une note sectorielle. D'ailleurs, ça a été assez bien documenté par le professeur Louis-Jacques Fillion, qui en a produit un document. Et si vous allez sur le web, vous allez probablement être capable de trouver ça. Et c'est aussi disponible dans un bouquin qui a été écrit par Louis-Jacques Fignon et Claude Ananou, qui s'intitule du projet d'entreprise à de l'intuition au projet d'entreprise. Donc, vous êtes capable d'aller vous trouver ça, puis je pourrais faire la référence un peu plus tard encore. Donc, le premier temps, c'est de comprendre le domaine dans lequel on embarque. Est-ce que on a beaucoup d'informations ou peu? Est-ce qu'on peut aller sur le web? Est-ce qu'il y a des coupures de journaux qu'on peut ramasser? Est-ce qu'il y a de l'information sur le web qui sont pertinentes dans notre projet qu'on devrait peut-être accumuler pour être capable de mettre ça, faire un relief, à être capable de créer une belle mosaïque de toute l'information? On pourrait le mettre dans un scrapbook en anglais. Donc, un ouvrage où on met toutes nos découpures, des coupures virtuelles comme des découpures papier. On prend des notes, on ramasse l'information, on se documente. Par exemple, si on avait un projet de lancer un restaurant, est-ce qu'on peut lancer un restaurant où on veut? Est-ce qu'il y a des règlements municipaux, comme des règlements, des règles de conduite à l'intérieur d'un restaurant. Est-ce qu'on peut servir des plats dans n'importe quelle condition? Ben, comme vous le savez tous et toutes, il faut vraiment respecter un minimum de qualité pour s'assurer qu'on n'empoisonne pas nos clients et puis qu'on soit capable de les satisfaire. Donc, on va documenter toute l'information et on met ça dans un grand recueil. Et un peu plus tard, ben, on va commencer à analyser tout ça. Et puis ça se fait de façon interactive. Interactive et itérative aussi. Donc, l'analyse, elle, c'est de prendre toute l'information et puis faire du sens. Faire du sens pour qu'on puisse voir les patterns, voir les façons de faire, être capable de voir les opportunités dans ça aussi. Et puis le troisième temps, ça va être de se positionner. Trouver une manière de définir un problème ou une opportunité qu'on voudrait être capable d'adresser et, ce faisant, commencer à esquisser notre projet d'entreprise. Bien qu'on l'avait peut-être en tête, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce premier document, c'est pour être capable d'accomplir notre aventure qu'on avait mis de l'avant au départ. Fait que si je reviens au camping, un coup qu'on a toute l'information en main, on comprend l'équipement requis, on comprend les endroits où on peut aller camper, on comprend les conditions dans lesquelles on y va, est-ce qu'on y va en été, en hiver, est-ce que ça va être une courte période de temps, une longue période. Bien, ça nous permet de choisir nos équipements, choisir avec qui on y va, comment on va y aller, est-ce qu'on doit avoir une préparation, une formation, etc. auparavant. Donc, c'est tous ces éléments qui nous permettent de faire du sens et de déterminer comment on va réaliser notre mission, réaliser notre entreprise. On va nous permettre de décider des moyens, décider des conditions, du temps et d'avancer graduellement à l'intérieur de notre projet. Pour pouvoir faire ça, ben il y a plusieurs outils qui sont à notre disposition, puis je vais en parler dans peu de temps. Mais lorsqu'on décide de se positionner, c'est d'être capable de trouver dans la forêt d'informations qu'on va ramasser, qu'est-ce qui est pertinent pour nous permettre de définir, je le mentionne à nouveau, l'opportunité ou bien quel problème on veut régler puis comment on va le régler. De quelle façon on va créer une entreprise autour de ce problème ou de cette opportunité? Et quels seraient les divers scénarios? Hein, qu'on fait tout ça là, à 100 000 pieds, à 50 000 pieds d'altitude, on voit l'ensemble du terrain. Troisième élément, on pourrait peut-être adresser le tout à l'intérieur d'un modèle d'affaires, puis je pourrais peut-être en reparler dans une future capsule audio. Modèle d'affaires qui nous permet de comprendre comment on va faire de l'argent, comment on va réaliser notre projet. Et si on était dans un organisme à but non lucratif, c'était ce qu'on avait, bien, comment on va être capable de remplir notre mission, trouver les fonds pour pouvoir le faire et les fonds et les appuis pour pouvoir mener à terme notre mission qualitative ou d'aide dans notre domaine. On aurait peut-être aussi, dans notre recherche, trouver quels sont les différents facteurs de succès pour notre aventure. On retourne au camping, bien, c'est peut-être la qualité des équipements, c'est peut-être la qualité des partenaires avec lesquels on va aller. Peut-être qu'il y a plusieurs compétences qui sont requises et ces compétences vont peut-être être mises ensemble avec plusieurs partenaires pour justement assurer le succès de notre entreprise, de notre mission. Il y aurait ensuite, évidemment, expertise requise, les forces, les avantages concurrentiels qu'on pourrait avoir par rapport au marché et lesquels on voudrait mettre de l'avant. Et encore là, que je parle pour une entreprise à but lucratif ou un organisme à but non lucratif, c'est toujours la même idée. Quels sont quand même les avantages qu'on veut mettre de l'avant et les services qu'on voudra bien offrir les services et les produits, si c'était dans le domaine du produit. Est-ce qu'il y a des faiblesses chez nos concurrents qu'on devrait peut-être connaître et sur lesquelles on pourrait peut-être se positionner pour pouvoir prendre avantage de la situation? Donc, trois grands temps, c'est comprendre en quoi on veut s'embarquer, analyser la situation en faisant du sens de toute l'information et finalement se positionner. On décide de ce qu'on va faire, mais aussi on décide d'agir puis d'avancer. Quelques modèles me viennent en tête qui pourraient peut-être être utiles dans votre démarche. Je vais y aller tranquillement là, avec 4-5 modèles, puis vous allez pouvoir trouver ça sur le web assez facilement en tapant les mots-clés que je vais vous donner dans quelques secondes. Tout d'abord, il y a le modèle qui est très connu, du FFOM. En anglais, on parle du SWOT. Donc, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Et en français, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, il y a deux volets. Un volet qui est interne, qui vous concerne, vous, concerne votre projet, vos forces et vos faiblesses. Qu'est-ce que vous amenez à la table? Qu'est-ce que vous avez qui vont vous permettre de dire que vous avez un minimum d'avantages? Ce sont vos forces. Vous avez peut-être aussi des éléments qui doivent être comblés. Ce sont les faiblesses. Par exemple, j'ai une très belle idée pour lancer une application sur le web, mais je ne connais pas la programmation. Donc, la force, c'est peut-être d'avoir l'idée, oui, être capable de la concrétiser avec des plans, être capable de la coucher sur papier pour être capable de l'expliquer à d'autres qui vont la coder, la programmer. C'est peut-être une de mes forces. Je connais peut-être très bien le marché aussi, une autre de mes forces. J'ai des contacts en financement d'entreprise. Je connais des gens qui vont être capables de m'aider dans ma démarche entrepreneuriale. Des forces. Au sens des faiblesses, ben j'ai pas d'expertise en programmation, je l'ai mentionné tantôt. La question qui va se poser ensuite, c'est comment est-ce que je vais faire pour pouvoir combler cette faiblesse? Et je pourrais en avoir d'autres faiblesses. Peut-être que je n'ai pas d'expérience en gestion. Peut-être que si on confie de l'argent, ben, je ne suis pas tellement un as en gestion des finances d'entreprise ou personnelle. J'ai peut-être besoin d'avoir d'informations additionnelles. Donc, les forces, les faiblesses. À terme, lorsque l'entreprise existera, on pourra refaire le même exercice. Quelles sont les forces de l'entreprise? Donc, ce ne sera plus seulement vous comme entrepreneur. Quelles sont les forces de l'entreprise et ses faiblesses? Et puis, on travaillera sur améliorer les forces en continu, mais en même temps, essayer de compenser pour les faiblesses qu'on aurait avec des ressources externes ou bien carrément en se dotant de nouvelles façons de faire, de nouvelles compétences. Ça, c'est le côté interne du modèle. Le deuxième côté, ça va être un côté qui est externe. Le côté externe étant les opportunités, les menaces. Nous, on a vu quelque chose lorsqu'on a décidé de lancer notre entreprise, et c'était ces opportunités. On était capable de faire une différence. On pouvait régler un problème. On pouvait améliorer une situation quelconque. C'est l'opportunité. Quelles sont ces opportunités? Et puis, ces opportunités, en fait, sont disponibles pour tout le monde. Hein? Tous les concurrents, toutes les personnes qui aimeraient pouvoir embarquer dans le même domaine dans lequel on est avec une autre solution ou la même, c'est disponible à tout le monde. Ce sont les opportunités. Pour le côté des menaces, ben qu'est-ce qui nous intéresse sur le marché, c'est aussi savoir qui sont les concurrents, qu'est-ce qui va nous menacer? Est-ce que l'économie va venir jouer en notre faveur ou en notre défaveur? Si c'est en notre faveur, donc c'est une opportunité, mais si c'était en notre défaveur, c'est une menace. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir compenser, pour pallier à cette menace? des fois, ça pourrait peut-être être des menaces de non seulement de l'environnement, mais ça pourrait être réglementaire. Et puis là, je vais revenir avec notre modèle qui va pouvoir aller chercher l'information à l'extérieur dans une petite minute. Donc, les forces, les faiblesses, c'est le côté interne, et les opportunités, les menaces, le côté externe. Donc, ces deux-là, les deux derniers, c'est commun pour tout le monde dans le domaine qu'on explore. Donc, il ne faut pas penser que ce sont des opportunités juste pour nous. Elles sont pour tout le monde qui sont intéressés à ce domaine. Et les menaces, c'est la même chose. C'est un élément qui est commun pour tout le monde. Vous voulez en savoir davantage de ça, venez consulter un de nos conseillers, puis ils vont être en mesure de vous donner toute l'information, puis vous faire voir les différentes facettes de ce modèle et des autres que je vais vous expliquer. Un deuxième, on l'appelle pompeusement en gestion, les cinq forces de Porter. Mais vous regardez ces modèles-là comme étant des pense-bêtes. C'est pas, ça n'existe pas, ces modèles-là. C'est juste une façon de voir notre environnement. Les cinq forces de Porter sont très simplement qu'est-ce qui se passe autour de nous avec un modèle que M. Michael Porter a élaboré il y a déjà plusieurs années. Je vais y aller tranquillement. Si nous, on rentre dans un marché, on est en présence de concurrents. Et même la même chose vaudrait aussi si on est un organisme à but non lucratif pour venir en aide à des jeunes dans un secteur défavorisé ou non, et on veut créer une maison de jeunes. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Fait que la première force, c'est les concurrents. Les concurrents, les gens qui offrent des choses semblables à ce qu'on veut faire, c'est cette première force-là. La plupart du temps, on l'exprime dans un modèle en croix, et les concurrents sont au centre avec nous. C'est là où on doit composer avec leur concurrence et avec leur façon de faire, en première force. Donc, ils nous influencent, ces concurrents-là. Eux aussi veulent être capables d'aider des jeunes. Eux aussi veulent le même type de service qu'on veut faire, mais ils veulent être capables de prendre le haut du pavé, de concurrence avec nous. Première force. Deuxième force, les clients. Les clients ont le choix. C'est plutôt rare qu'il y ait une seule offre qui est disponible. C'est pour ça qu'il y a plusieurs concurrents. Puis le client, lui, va exercer un certain pouvoir sur nous. Peut-être ça va être en fonction des prix. Ça va peut-être être en fonction des heures d'ouverture. Il va y avoir toutes sortes de choses que le client va exiger de nous, qui va peut-être être comblé par d'autres. Mais ce client exerce une force sur nous. C'est celle de négocier avec nous. Une troisième force, c'est celle des fournisseurs. Les fournisseurs, si on est même dans le domaine du service, ben il y a quand même des fournisseurs pour nous permettre de transformer une information, transformer des produits pour nous permettre de livrer ce qu'on fait. Donc, ces fournisseurs aussi exercent une force. Peut-être qu'ils veulent contrôler leurs prix, ils veulent maintenir les prix qui sont élevés, qui ne nous permettent pas d'être aussi concurrentiels qu'on aimerait. Peut-être que c'est une question de disponibilité, de rareté, etc., etc. Faut comprendre que nous ne sommes pas seuls et qu'on baigne dans un environnement qui est peut-être pas toujours hostile, mais qui va exercer une pression sur nous. Des fois, on veut être capable de livrer un client, puis là, on est obligé de dire « Ouais, mais je peux pas le faire tout de suite parce que mon fournisseur m'a pas encore livré. » C'est une force qui est en train d'exercer sur nous. C'est à nous à comprendre pour être capable de tirer notre épingle du jeu. Une quatrième force, c'est celle des la menace de gens qui vont vouloir entrer dans le même domaine dans lequel on est. Ils sont pas encore des concurrents, mais on les voit venir. On sent qu'il va y avoir un mouvement. Retourner quelques années en arrière, les fournisseurs en téléphone cellulaire n'avaient peut-être pas vu venir les compagnies comme Apple avec leur téléphone intelligent et ont exercé, ces nouveaux entrants qui étaient Apple, ont exercé une force extraordinaire sur plusieurs équipementiers en téléphonie cellulaire. Cette force a en fait délogé quelques-uns des concurrents qui étaient là. Vous avez juste à regarder les entreprises qui sont défuntes, qui produisaient des téléphones cellulaires jadis. Il y en a plusieurs qui ont eu beaucoup de problèmes. Ça, c'est la menace des nouveaux entrants. Plus on est au courant de qu'est-ce qui se passe dans notre domaine, plus on a de chances d'être capable de mieux placer nos billes et de tirer notre épingle du jeu. Une cinquième force, ce sont les entreprises ou les services qui sont substituts à ce qu'on offre. C'est pas parce que j'ai un téléphone cellulaire que c'est la seule manière de communiquer. Donc, les substituts, c'est peut-être le téléphone à la maison là, qui est filé, qui est relié là, au grand fournisseur de services par un fil. Il y en a plusieurs des produits substituts. Ces produits substituts peuvent venir avoir une influence sur nous. Puis un jour, peut-être qu'ils vont devenir aussi de nouveaux entrants, etc. Donc, on appelle ça le modèle de Porter, des cinq forces de Porter. Et des cinq forces de Porter, on est capable d'apprendre beaucoup sur nous en même temps parce que ça nous donne cette meilleure compréhension que pour être un bon concurrent nous-mêmes sur le marché, il va falloir qu'on compose avec toutes ces forces. Un autre modèle qui pourrait être intéressant, encore là, c'est un pense-bête. Ça n'existe pas, c'est vraiment des pense-bêtes. C'est le PESTEL. Vous en avez sans doute entendu parler dans vos accompagnements là, que vous recevez de gens qui vous entourent. PESTEL se décline, puis il y a plusieurs versions autour de ça, là, mais je vais vous donner la mienne. C'est l'acronyme pour politique, économique, sociale, technologique, environnementale et légale. Donc, c'est un pense-bête qui nous permet de dire, ben, est-ce que j'ai pensé à tout l'élément politique qui pourrait toucher mon projet? Politique étant, est-ce que le gouvernement nous amène à créer de nouvelles solutions pour contribuer à sauver l'environnement? Donc, on a des politiques vertes, on a des politiques de consommation d'énergie, etc. Est-ce qu'il y a des influences? C'est un pense-bête encore. Un autre élément va être la dimension économique. Est-ce que l'économie est favorable pour nous? Et ne pensez pas que c'est seulement lorsque on est en croissance économique que c'est une bonne chose pour les entreprises. C'est pas vrai. Je reviens là, comme par hasard, à mon exemple du camping. Si l'économie va moins bien, ben peut-être que ce sont les gens qui font des croisières qui vont décider d'aller faire du camping. Donc, ils arrêteront peut-être pas nécessairement d'avoir des vacances, mais ils vont peut-être juste prendre des vacances qui sont un petit peu moins coûteuses, moins dispendieuses, et vont décider d'aller faire du camping. Donc, si je suis dans le monde du camping, peut-être qu'en ayant une forme de récession, c'est peut-être bon pour mon industrie, hein, en tout cas, ce que je vais faire, moi, à l'intérieur du camping. Et peut-être, donc, je vais profiter d'une économie qui n'est pas aussi rose pour pouvoir accommoder de nouveaux clients que, normalement, je n'aurais pas eu parce qu'ils vont faire des croisières ou des voyages en Europe ou ailleurs, en côté économique. S'il est positif, l'environnement économique, ben peut-être que ça ajoute d'autres opportunités. Lorsque on est en croissance économique, on va probablement vendre davantage de téléphones cellulaires au dernier cri parce que ils sont plus performants, parce qu'ils sont plus intéressants, font de nouvelles choses, sont plus beaux, plus légers. Mais si ça va pas bien, peut-être que je vais décider de garder mon téléphone. Donc, il y a deux volets autour de ça. Autre aspect, c'est l'aspect social. Du côté social, est-ce qu'il y a des choses à apprendre pour le type d'entreprise qu'on est en train de créer? Et social, ça veut aussi dire ce qui se passe en société. C'est pas juste pour l'aspect sociologique. Il se passe des changements au niveau de nos habitudes alimentaires. Ces changements d'habitude, ben, amènent peut-être une nouvelle création de pain, une nouvelle création de yogourt. Il y a toutes sortes d'industries qui émergent parce que socialement, on est en train d'évoluer vers un monde plus en santé, plus santé, on se comprend. Côté technologique, est-ce qu'il y a une nouveauté? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer de ce côté-là? Est-ce qu'on est on vient de faire de nouvelles découvertes qui nous amènent à offrir un grand bassin d'entreprises? Je prends encore, à titre d'exemple, les applications qui apparaissent sur les téléphones intelligents. Avant l'avenue du téléphone intelligent, il n'y avait pas beaucoup de ça. Arrive l'iPhone et puis les différentes déclinaisons avec les autres entreprises, là, les Samsung de ce monde, etc. ben on a de très grandes opportunités qui sont amenées par la technologie. Donc, beaucoup de petites entreprises ont été créées dans cette mouvance-là. Vous avez juste aussi à regarder tout ce qui touche les jeux électroniques. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées parce qu'il y avait maintenant l'opportunité de processeurs qui sont plus rapides, un peu plus de temps chez les gens. Ils veulent jouer à des jeux, ils veulent être capables de le faire d'eux-mêmes. C'est vraiment une belle opportunité. La technologie nous a amené ça. Et puis, regardez toutes les technologies qui vous entourent. Il y a eu des créations d'entreprises dans presque tous ces domaines-là. Le côté environnemental. Est-ce que il y a des choses, des courants qui se passent en société qui viennent affecter la façon dont on peut entrevoir d'opportunités? Il y en a dans le domaine de l'énergie verte, ça c'est certain, et puis toutes les solutions qui tournent autour de ça. Si c'est pas l'énergie verte, ça va peut-être être la façon dont on cultive nos champs. Peut-être la façon dont on va produire des fleurs et puis qu'on va même engraisser nos terrains lorsqu'on est à la maison. Il y a beaucoup d'opportunités dans ça. Puis là, je veux même pas embarquer dans chacun des domaines parce que je ne suis pas un spécialiste en grande profondeur. Je fais juste couvrir de façon très, très générale les opportunités que ce modèle PESTEL peuvent nous amener puis nous faire comprendre. Puis le dernier point, c'est le côté L pour légal. Donc, est-ce qu'il y a des règlements? Est-ce qu'il y a de nouvelles lois qui s'en viennent qui vont nous permettre d'entrevoir de nouvelles opportunités? Est-ce qu'il y a des lois présentement qui sont peut-être caduques et qui vont être remplacées? Est-ce que, etc., là, je laisse à votre imagination. Je suis persuadé qu'avec la variété de projets qui sont déjà à l'extérieur, vous allez avoir tout le loisir de nous trouver des belles idées. Donc, je résume encore, c'est le politique, économique, sociale, technologique, environnementale et légale. Vous êtes capable d'aller faire une recherche sur le web pour pouvoir trouver ça sans aucun doute.
Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission, de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.
Not too long ago, I came of age. Just about that time I went through some of my darkest days. Time and time again I walked up to that same old door. Smiling faces greeted me from pillows on the floor. There was always consolation, there was always hope.
Take it all away. Keep giving everything.